Merci, bonsoir à tous. On va commencer cette conférence sur les fouilles archéologiques qui ont été réalisées au Reliade, donc au Puy-en-Velay, dans le cadre de l'opération du contournement du Puy-en-Velay par la Reine 88. Alors tout de suite, on va présenter les intervenants qui sont sur cette scène. Donc pour commencer, moi-même qui se représente la DREAL, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et de Logement, nous sommes maîtres d'ouvrage du contournement du puits, et c'est dans le cadre de cette opération donc qu'ont été financées les fouilles qui nous intéressent ce soir. À l'autre bout de la table, Élise Nectou, donc du Service Régional d'Archéologie, qui dépend de la DRAC à Clermont-Ferrand. Et enfin, donc Monsieur Bertrand Bonaventure et Jocelyn qui est là, de la Société Archéodunum, qui va vous faire la présentation donc du résultat des fouilles. Donc pour commencer, je vais vous parler du contournement. Quelques mots. Après, Madame Nectou vous parlera du contexte réglementaire, de l'intérêt des fouilles, des diagnostics et des fouilles préventives dans lesquelles on s'inscrit là. Et puis, donc Bertrand Bonaventure vous présentera le résultat sur le site des Reliades de ces fouilles. Donc, pour démarrer le contournement, les grandes étapes de cette opération qui a été déclarée d'utilité publique en 2001. Donc, elle a connu une première phase de travaux qui a concerné essentiellement la rive droite de la Loire avec l'aménagement d'un bout de la section courante de la Rhin 88 et la mise en service du demi-échangeur du Monteil. L'opération est repartie sur la rive gauche à partir de la fin des années 2000, avec sur la période 2000-2013 la construction de différents ouvrages d'art, le viaduc de Toyac, le doublement du pont sur la Loire, une partie de la tranchée couverte et plusieurs rétablissements routiers par passage inférieur. Et c'est au milieu de cette période, donc qui comprenait ce qu'on appelle des dégagements d'emprise, c'est-à-dire de libérer les emprises pour permettre l'avenue des terrassements généraux, qu'ont été réalisées les fouilles archéologiques, donc précisément durant l'année 2012. Depuis début 2014, on est donc dans la phase des terrassements généraux, donc vous avez peut-être pu vous en rendre compte, depuis les barrages jusqu'à la Loire, toutes les emprises sont maintenant mouvementées avec des constructions d'ouvrages et des mouvements terres. Dans une optique de réaliser les chaussées par-dessus, à cheval sur 2015-2016, en vue d'une mise en service fin 2016. Donc ça, c'est une date de mise en service technique, c'est possible. Après, c'est bien entendu sous réserve des dotations financières dans les années à venir. Les chiffres clés du contournement, donc c'est une 2x2 sur 8,7 km pour un tracé complet de 9,4. Il comprendra 4 points d'échange, donc le demi-diffuseur du Monteil qui est déjà en service sur la rive droite de la Loire. Après, juste sur la rive gauche, au niveau de l'avenue des Belges, il y aura l'échangeur de Bellevue. Puis un échangeur à Ours-Mons, au pied de la gare d'Ours. Et enfin, le gérateur de raccordement sur la Rhin 88 au Barac, avec le Sac-sur-Loire. Il comprend 3 ouvrages d'art exceptionnels. Donc, je vous ai cité tout à l'heure, ils ont été réalisés donc, depuis les débuts. Les années 2010, donc le doublement du pont sur la Loire, la tranchée couverte et le viaduc de Toyac. On peut rajouter aussi les 2 rétablissements de l'avenue des Belges et de l'avenue Charles-Dupuy, qui sont des passages inférieurs mais de très grande ampleur. Le montant total de l'opération, donc qui inclut la première phase, est estimé à 194 millions d'euros. Ce qui fait quand même une opération assez coûteuse compte tenu de ses caractéristiques. L'archéologie au sein de cette opération, c'est d'abord un peu plus de 500 000 euros pour le diagnostic. Donc il a été réalisé depuis le début des années 2000 jusqu'à les derniers ont été faits en 2012 dans le cadre de conventions passées avec l'INRAP. Et les fouilles préventives suite au diagnostic. La DRAC a prescrit des fouilles préventives dans le secteur des Reliades et celles-ci ont pour un coût de presque 1,2 million d'euros. Dans le cadre d'un marché passé donc avec la société Archéodunum, qui ce soir va vous présenter les résultats, associé à un terrassier, la Foisienne. En effet, on peut se dire que 1,2 million pour faire des fouilles qu'on imagine à la truelle ou à la brosse à dents, ça fait beaucoup. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont des fouilles de très grande ampleur, puisqu'on a eu plus de 70 mm cubes de terrassement dans le cadre de ces fouilles. 70 mm cubes, pour vous illustrer, c'est le volume de l'emprunt qui a été réalisé il n'y a pas longtemps au stade à côté du stade de Toyac, le grand trou qui a été creusé, c'est 70 mm cubes. Le déblai que vous avez en montant l'avenue des Belges, en partant vers Corsac, à droite, au niveau du chantier, il fait 30-35 mm cubes. Donc c'est deux fois ce volume qui a été fait uniquement pour faire ces fouilles. Donc c'est quand même un volume très important. À signaler aussi qu'une journée d'information a été faite à l'époque des fouilles sur site. C'était le 22 septembre 2012, donc il y a un peu plus de deux ans. Et il y a eu près de 300 visiteurs déjà qui s'étaient déplacés pour voir les fouilles en vrai. Donc je termine mon intervention juste pour vous rappeler qu'il y a des moyens de communication pour se tenir un peu au courant de l'avancement de l'opération. D'abord par notre site internet. Donc vous tapez simplement déviation du puits en blé sur Google et vous allez retomber dessus. Et la ligne à le chantier, donc il y a un numéro vert pour aussi prendre des renseignements ou signaler des choses par rapport au chantier. Donc ça c'est des numéros qu'on appelle un numéro vert. Voilà, donc je vais passer la parole à Alice Nectou qui va vous expliquer un peu le contexte réglementaire de l'archéologie préventive.
Merci. Bonjour à tous. Je ne vais pas rentrer dans les détails des textes, évidemment, sinon je vais tous vous embarquer, parce que c'est pas l'objectif. Mais je vais juste vous rappeler un peu le rôle de l'État. Pourquoi on fait de l'archéologie préventive et quels sont les objectifs? Donc l'État a pour rôle de veiller à la bonne conservation du patrimoine archéologique, enfoui ou pas enfoui d'ailleurs, parce qu'il y a aussi du patrimoine en élévation. Et donc de veiller à la conservation c'est une chose, mais de veiller à ce que en cas de destruction par les aménagements il puisse être sauvegardé malgré tout par l'étude, donc par la fouille archéologique. Donc ça c'est vraiment c'est l'archéologie préventive, ses objectifs principaux au départ. Ensuite le rôle de l'État c'est aussi de promouvoir un petit peu l'archéologie, d'essayer de faire en sorte que toutes ces découvertes soient valorisées et soient rendues publiques, et aussi de promouvoir la recherche, qui est une trame de fond, qui est l'objectif global. On fait tous de l'archéologie pour la même chose, pour faire avancer la recherche. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va fouiller des vestiges, non seulement c'est qu'ils doivent être détruits et donc ils doivent être préservés, mais aussi qu'ils ont un intérêt scientifique majeur. Il y a un certain nombre de sites archéologiques qui sont découverts dans le cadre de diagnostics, qui ne sont pas fouillés, car ils ne méritent pas forcément une étude très, très complète. Comme l'a dit M. Septobre, l'archéologie a un coût, on en a tous conscience, donc on ne fouille que ce qui vraiment le mérite. Voilà. Donc le site du contournement du Puy, c'est un secteur qui... donc on avait fait un grand diagnostic que je vais vous montrer tout à l'heure, et donc on va voir qu'il y avait, des vestiges un petit peu égrenés le long du contournement, mais en fait en très faible quantité, on s'est concentré sur l'endroit le plus intéressant. Donc la recherche archéologique, elle prend plusieurs formes. Vous avez donc l'archéologie préventive, dont vous allez avoir un exemple concret ce soir. Il y a aussi de la recherche pure, qui est la recherche universitaire, qui peut être de la recherche dans différents cadres, ce qu'on appelle de la recherche programmée. Donc dans tous les cas, toutes les fouilles archéologiques servent à apporter de nouvelles connaissances pour la recherche dans sa globalité. C'était un petit peu l'objet de cette diapo. Donc, je vous ai mis cette image, cette carte pour vous rappeler un peu l'état des recherches archéologiques, surtout dans le cadre de l'archéologie préventive. Donc, vous avez le Puy qui est ici, vous avez Polignac ici. Donc, ça, c'est le tracé du contournement. En bleu, ce sont les opérations de diagnostic. Donc, c'est-à-dire, le diagnostic, c'est la première phase de recherche. C'est le moment où on va, avec des pelles mécaniques, aller faire des trous régulièrement sur l'emprise des terrains pour aller voir s'il y a des vestiges ou non. Et s'il y en a, voir s'ils sont suffisamment conservés pour apporter des connaissances, ou si ce n'est pas le cas, et à quelle profondeur ils sont enfouis, voir s'ils risquent d'être détruits par les aménagements ou pas. Donc il y en a quand même un certain nombre. Donc le contournement du puits, ça nous a occupé effectivement en plusieurs tranches. Ça nous a occupé depuis 2004, surtout 2007, 2010, 2011. Donc on va voir ça en détail. Vous avez ici, je ne sais pas si. Bon, on va voir ça un peu plus en détail sur la diapo suivante. Mais l'archéologie préventive, on en fait dans le centre du puits aussi, de l'archéologie du bâti éventuellement, sur des bâtiments encore en élévation, bâti médiéval ou plus récent. Donc voilà, tous les petits points bleus sont des diagnostics, et ensuite il y a aussi des points rouges qui sont des secteurs où on a fouillé, donc des endroits où on a ouvert une plus grande emprise de terrain pour étudier de façon exhaustive les vestiges. C'est-à-dire qu'on repart avec une archive complète du site afin de le conserver pour mémoire. Donc voilà, sur le contournement, le diagnostic avait été prescrit en 2004, donc il a été mis en œuvre en plusieurs tranches. Voilà, grosso modo, ça c'est un exemple, c'est dans le secteur de la pépinière, et vous voyez toutes les traces marrons, ce sont les tranchées du diagnostic. Donc c'est une des tranches. Donc les diagnostics sont faits en général autour d'un pourcentage de 5%, entre 5 et un petit peu plus parfois, de l'emprise globale du terrain. C'est-à-dire qu'on ouvre à peu près 5% du terrain. C'est très peu en fait. On a une vision qui est très très partielle au moment du diagnostic, mais on a généralement suffisamment d'indices pour savoir s'il y a un gros site ou un petit site ou s'il n'y a rien du tout. Globalement, c'est le ratio qu'on fait habituellement, le diagnostic, c'est entre 5 et 7%, parfois un petit peu plus. Donc là, je vous ai mis un peu la synthèse par tranche. Donc ça, c'était la phase de 2011, c'est la phase la plus au nord du contournement. Il y avait quelques vestiges modernes. Vous avez la grande phase 2011 ici, où il n'y avait pas grand-chose, en fait. Dans ce secteur-là, il y avait quelques petits vestiges aussi, mais pas... c'est le secteur où il y avait des gros vestiges, pardon. C'est le secteur le plus important. Et ensuite, c'est celui-ci où il y avait quelques petites choses, mais un peu moins. Voilà. Souvent, on avait des choses modernes avec des restes des vestiges agraires, en fait, de mise en valeur des territoires, mais... pas de vestiges vraiment plus anciens. Donc, les choses qui ont été vues, l'endroit qui a été qui a livré le plus de vestiges, donc c'est le secteur des reliades sur le secteur d'Oursemons. Et donc, c'est là que nous avons décidé de demander au maître d'ouvrage de financer une étude vraiment exhaustive de la zone, puisqu'elle devait être détruite par les terrassements. Parce que pour construire une route, vous imaginez, vous voyez les terrassements quand vous passez autour du contournement, les travaux sont vraiment colossaux. Donc, les vestiges n'auraient pas survécu. Donc l'intérêt scientifique de ces vestiges, pourquoi est-ce qu'on a demandé la réalisation de cette fouille? Donc, il y avait deux périodes principales. La chronologie concernait vraiment la protohistoire et l'antiquité. Ensuite, il y avait des choses un petit peu plus récentes aussi, mais c'est un peu plus marginal, c'est des aménagements agraires en fait. Donc pour la protohistoire, j'ai mis beaucoup de textes. En fait, autour du puits, on a une connaissance de la protohistoire qui est quand même... on a des sites connus, mais les recherches ne sont pas très récentes et ne sont pas très étendues. Donc là, comme on avait des vestiges qui paraissaient bien en place sur l'emplacement du contournement, on a décidé de faire une étude plus précise, plus poussée, pour apporter vraiment des connaissances plus approfondies. Puisque donc pour l'âge du bronze, on a des choses... il y a des spécialistes dans la salle. On a des choses, oui, sur le mont Anis, donc dans la ville du Puy, dans la vieille ville du Puy. Il y a des choses plutôt dans la vallon de Toyac. Mais donc là, c'est un petit peu plus sur l'autre côté. Pour l'Antiquité, on avait déjà des connaissances un peu plus approfondies. On sait que la ville du Puy, pendant le Haut Empire romain, était une agglomération secondaire avec un gros temple à l'emplacement de la cathédrale. Et dans la ville, on a fouillé en 2005 une petite forge du 1er siècle. 2005 ? Non, c'était 2009 plutôt. On a des établissements ruraux qui ont été fouillés autour de la ville aussi. Donc, dans les établissements ruraux, ce sont des grosses fermes, en fait, des gros domaines agricoles. Donc, on en a dans le secteur d'Estaly, on en a sur Toyac. Et donc, le contournement du Puy en a mis en évidence un autre morceau. Donc, l'intérêt de la fouille du contournement du Puy, c'était vraiment de compléter les connaissances sur ces sites-là, qu'on connaît mal, soit par des fouilles anciennes, soit par une seule fouille récente. C'est le secteur de Toyac. Donc là, on était un peu en attente de nouvelles données.
Bonjour à tous. Donc moi, mon rôle, ça va être de justifier les 70 000 cubes de terre déplacée, 70 000 mètres cubes de terre déplacée, en vous exposant donc les résultats de ces fouilles archéologiques qui se sont déroulées au printemps, été, automne 2012, donc au Reliade. Qui ont donné, donc je résume directement la situation, qui ont donné des résultats qui s'échelonnent de l'âge du fer, il y a un peu de néolithique aussi, j'en parlerai très rapidement, mais qui s'échelonnent surtout de l'âge du fer jusqu'à quasiment nos jours pour tout ce qui est exploitation agricole de secteur. Je m'excuse par avance pour les quelques redites par rapport à ce qui a été expliqué déjà avant par Eric Septobre et Élise Nectou, mais je vais refaire quelques petites digressions sur le cadre réglementaire, sur les procédures de l'archéologie préventive, mais c'est sans vous assommer évidemment avec cette question, mais c'est juste pour que les choses soient bien claires. Donc là, pour cette présentation, je vais très rapidement du coup vous évoquer, pour commencer, la question du diagnostic et de la fouille, enfin les procédures qui vont de l'un à l'autre. Dans un deuxième temps, quelques contraintes techniques pour les fouilles des reliades qui ont été assez importantes. C'était une fouille assez particulière d'un point de vue technique. Dans un troisième temps, le contexte archéologique rapidement, sans redire ce qu'a dit, en essayant d'éviter de redire ce qu'a dit Élise Nectou, mais juste pour vous situer un petit peu le site des reliades dans un cadre régional. Et ensuite, on attaquera le vif du sujet, c'est-à-dire l'histoire du site des reliades dans toutes ses dimensions, en tout cas de ce qu'on a pu documenter pendant la fouille. Donc, ça, je ne vais pas le répéter, mais voilà, le déroulement d'une fouille préventive, on a d'abord le diagnostic, les prescriptions de fouille par l'État, ensuite, qui donne lieu à un appel d'offres, ensuite, la fouille et la post-fouille, c'est-à-dire les analyses, les études et la rédaction du rapport, ce qui nous a pris tout de même quasiment un an, donc ce qui explique que cette conférence n'a lieu que 2 ans après la fin des fouilles, puisqu'il y a tout un travail derrière de digestion des données qu'on a sorties sur le terrain. Voilà, c'est un autre plan du diagnostic, mais c'est quasiment le même. Hein, donc vous voyez les différentes phases de diagnostic sur les travaux du contournement. Et c'est donc, comme l'a précisé Élie, c'est dans ce secteur-là, sur là où il y a le cadre rouge, que les vestiges se sont avérés les plus abondants et sans doute les plus intéressants, et ce qui a donné lieu à une prescription. Voilà un petit zoom sur le secteur. Vous voyez ces tranchées, ces rectangles blancs, gris, jaune et vert sont les tranchées de diagnostic. Et celles qui sont colorées, ce sont les tranchées de diagnostic qui ont révélé des vestiges pour le jaune de la protohistoire et pour le bleu de l'Antiquité. Donc on voit la cohérence de la prescription hein, donc, qui ceinture les zones de concentration particulières. Et donc c'est sur ces deux secteurs-là, en grisé, ici et là, que la fouille a été conduite. Ces deux secteurs ont pris deux jolis noms, le premier R1, donc le petit secteur de 5000 m², et le deuxième R2 qui fait 30 000 m². Pardon. Et je vais rapidement évoquer quelques chiffres, je vais répéter encore certains qu'a déjà donné Eric Septobre, mais on a une superficie totale de 3,6 hectares, pour vous donner une image, c'est à peu près 7 terrains de football, une pente moyenne de 6% qui nous a également posé quelques problèmes puisque c'est dans des contextes de versants, présente des dynamiques colluviales qui sont toujours assez perturbantes au moment du décapage notamment, avec un dénivelé maximum de 13 mètres du haut vers le bas de la fouille. Et les terrassements, comme le disait déjà Eric Septobre, 70 000 m3, c'est-à-dire l'équivalent de 70 piscines olympiques, grosso modo. Hein, chacun ses systèmes de comparaison. La profondeur maximum décapée, c'était 4 mètres environ sur les secteurs les plus épais. Je signale tout de suite la présence d'une zone humide qui se développait ici en périphérie du site et qui aura son importance dans l'interprétation puisqu'on se rendra compte que cette zone humide existe depuis au moins le premier âge du fer. Mais ça, je vais y revenir dessus. De tels volumes de terrassement et de une telle superficie impliquent évidemment des moyens mécaniques importants. Voici une simple illustration d'un démarrage de chantier au petit matin avec ces quelques bennes qui partent sur le terrain. En voilà une autre illustration en cours de décapage. Donc c'était au maximum 4 pelles mécaniques de 20-30 tonnes qui œuvraient simultanément pour décaper toute cette surface et tous ces volumes de terre. Donc c'est quelque chose d'assez important. Ces moyens mécaniques importants ont nécessité la mise en place de systèmes pour notamment protéger les vestiges. Le premier de ces systèmes, c'est la mise en place d'une piste qui servait au déplacement des véhicules, donc qui traversait tout le chantier sur toute sa longueur. Et le deuxième système, c'est le creusement de fossés qui ceinturaient la totalité du site, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes dans un contexte de versant, donc avec beaucoup d'eau qui circule, qui coule des versants de la gare d'Ours notamment, et qui descendent sur le site. Donc ces systèmes ont été mis en place sur tout le pourtour de l'emprise, afin de récupérer les eaux qui terminaient dans un bassin, que dont vous voyez l'illustration à gauche, pour être ensuite reversées après filtrage dans la zone humide. Et puis, simplement pour casser un peu le mythe de l'archéologue qui passe son temps à fouiller avec un petit pinceau et une petite truelle, quelques images des conditions climatiques qu'on a pu avoir et qui ne nous ont pas empêchés de travailler, mais qui ont quand même un peu pénalisé la fouille, il faut bien le reconnaître. Très rapidement, le contexte archéologique qui présente deux points relativement importants. Donc là, vous vous situez relativement bien, j'imagine. Ici, le puits Envelet. Ici, vous voyez les deux petites emprises R1 et R2 dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Et vous voyez en jaune tout ce qui est de la période gauloise et ce qui est en orange, la période romaine. C'est en gros les deux périodes principales qui sont représentées sur la fouille des Reliades. Pour la période gauloise, on a quelques indices, comme le disait Élise Nectou, quelques indices qui sont attestés dans la région, souvent des choses assez peu structurées parce que pas forcément fouillées de manière assez exhaustive, mais on a en tout cas probablement un site fortifié ici à Polignac, peut-être, alors là je vais peut-être dire des bêtises sur le Puy-en-Velay, mais peut-être également aller savoir un site fortifié au Puy-en-Velay, mais en tout cas, ou peut-être un site à vocation cultuelle. Également à Brive-Charensac, il y a des indices, de tels indices sur le petit sommet, comment il s'appelle déjà, le Mont Brunelet à Brive-Charensac. Et puis l'étoile 5, là c'est une sépulture de l'âge du fer. Mais ce qui est surtout important à retenir, c'est la structuration de ce territoire à partir de l'époque romaine, puisque tous ces carrés numérotés que vous voyez ici, ces carrés orange, ce sont des villas. Donc qui montrent des villas qui se développent autour de l'agglomération du Mont Anis, et ces villas montrent une structuration du territoire et une exploitation du territoire autour de cette agglomération assez importante à partir de l'époque romaine. Et les fouilles des Reliades viennent compléter et alimenter ce dossier de la structuration du territoire dans ce secteur. Alors, je vais vous présenter tout de suite toutes les phases chronologiques qui sont représentées, comme ça les choses seront un peu claires, et puis ensuite je rentrerai un peu plus dans le détail. Sur la droite, vous avez le plan général des vestiges, et puis vous verrez apparaître des petits carrés qui vous montreront la localisation des différents vestiges des différentes périodes. La première, c'est le néolithique. C'est du néolithique moyen, du 4e millénaire avant notre ère. Je ne vais pas l'évoquer outre mesure, puisque c'est des vestiges assez lacunaires qui ne permettent pas vraiment de développement sur leur interprétation. Deuxième période, c'est celle du premier âge du fer, qui se développe toujours dans le secteur nord, donc dans R1, et puis également un petit peu dans R2. Mais c'est surtout à partir du second âge du fer, donc essentiellement les deuxième et premier siècle avant notre ère, que le site semble se structurer et se développe. La période augusto-tibérienne suit immédiatement la précédente, donc on a une continuité entre les deux, une continuité, et on a toujours un site qui se développe et qui vraiment se structure de manière assez importante. Et puis, on perçoit une régression de l'occupation à partir de l'époque flavienne, c'est-à-dire la fin du 1er siècle de notre ère. Et puis le reste, donc la sixième phase, en gros, la sixième phase d'occupation n'est pas vraiment une occupation, c'est une fréquentation, puisque c'est essentiellement des vestiges de nature agraire qu'on a trouvés, mais qui sont importants puisqu'ils permettent de documenter toute l'évolution du paysage sur cette longue période. Évidemment, cette amplitude chronologique a des conséquences couplées en fait avec le contexte de versant, la présence de colluvions. Tout ça s'accompagne d'une grosse épaisseur stratigraphique. J'ai mis quelques images pour illustration, mais c'est simplement pour voir les différentes couches qui s'accumulent et qui pour certaines d'entre elles, séparent différentes phases d'occupation. Donc c'est ces différentes couches qu'on a tenté au maximum d'éplucher une par une pour arriver à découvrir les vestiges qui se développaient période par période. Tout ceci, alors je vous rassure, je ne vais pas vous commenter cet ignoble schéma, mais c'est ce qu'on appelle un diagramme stratigraphique, c'est un petit jeu qu'on fait habituellement, je parle pour ceux qui ne sont pas habitués à l'archéologie, mais c'est ce qui nous permet de déterminer l'antériorité ou la postériorité de chaque couche par rapport à une autre, et d'insérer les vestiges, même ceux qui ne sont pas forcément datés, à l'intérieur de ce grand diagramme, et qui permet de phaser le site, d'arriver à avoir une vision cohérente pour chaque période, un plan, des vestiges, des colluvions qui viennent se rajouter par-dessus, et ainsi de suite, jusqu'à la période contemporaine. Eh bien, commençons à attaquer le vif du sujet avec la période néolithique, 4e millénaire avant notre ère. C'est une période qu'on n'avait pas du tout perçue ni au diagnostic, ou à peine, il y avait quelques indices qui avaient été révélés, mais ni même à la fouille, puisque aucun mobilier caractéristique de cette période n'avait été mis au jour. Mais nous avons tout de même mis au jour cet espace, on va appeler ça bâtiment, mais c'est assez délicat de vraiment l'interpréter au-delà, puisqu'on a des trous de poteaux, donc c'est de l'architecture légère. Ces trous de poteaux qui n'avaient pas livré de mobilier, donc on l'avait associé, au moment de la fouille en tout cas, à l'occupation de l'âge du fer, puisque ça se trouvait dans le même secteur. Vous voyez une de ces illustrations de trous de poteaux, donc c'est des choses qui sont manifestement assez mal conservées, hein, très arasées, puisque vous voyez l'épaisseur, 10 cm, on ne peut pas vraiment planter un poteau là-dedans, donc il y a sans doute une certaine épaisseur qui a disparu. Ce sont uniquement les analyses au carbone 14, les charbons qui ont été prélevés dans les comblements de ces trous de poteaux, qui ont permis de cerner un ensemble relativement cohérent, centré sur le 4e millénaire avant notre ère. Donc ces graphiques-là, qui sont les résultats des datations carbone 14, et qui permettent de cerner la présence d'une occupation au néolithique moyen. Occupation très difficile à caractériser, parce que les rares vestiges qui sont attestés sont situés en limite d'emprise, donc soit c'était tout ce qu'il y avait là, et puis on ne pourra pas en dire beaucoup plus, soit il y a une occupation qui se développe en périphérie de l'emprise, et c'est pareil, on n'aura pas de documentation à son sujet. Mais voilà, c'est toujours intéressant de montrer un début d'occupation sur ce secteur. C'est vraiment le point de départ de l'occupation, c'est ce néolithique moyen. Mais on va tout de suite s'attaquer au premier âge du fer, donc entre le 8e et le 5e siècle avant notre ère, qui commence à livrer des vestiges un peu plus importants. J'ai mis occupation de bord de lac, puisqu'effectivement, on a différents indices qui nous montrent la présence de la zone humide, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui probablement n'était pas une zone humide comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un marais, mais un véritable lac qui était beaucoup plus étendu que ce qu'il est aujourd'hui. Mais revenons aux vestiges archéologiques à proprement parler. Lors du diagnostic, les fouilleurs du diagnostic ont mis au jour des niveaux caractérisés par la présence de charbon et de céramique. Donc vous voyez des exemples ici, c'est pas les exemples du diagnostic, c'est ceux qu'on a remis au jour à la fouille, mais on a trouvé exactement la même chose. Et ces vestiges ont été interprétés comme des niveaux de sol, datés du premier âge du fer. Niveau de sol, c'est particulièrement important, puisque quand les niveaux de sol sont conservés, ça veut dire que quasiment tout est conservé, puisqu'on aura toutes les structures sous-jacentes, évidemment, les structures enfouies, et également les niveaux de sol, dont l'étude en plan permet de comprendre un peu mieux comment se fonctionnent les espaces de circulation, les différentes pièces des maisons, par exemple, etc. Donc c'est quelque chose d'assez très important dans une fouille archéologique, de bien documenter les niveaux de sol. Et cette présence justifiait en partie la prescription sur ce secteur. Voilà, nous, ce que nous avons mis au jour dans l'ensemble. Alors, c'est assez peu spectaculaire, je vous l'accorde. Ce sont des taches charbonneuses qui s'étalent dans ce secteur, donc à l'ouest, de la zone R1. Et en fait, à l'étude, il s'est avéré qu'il ne s'agit probablement pas de niveau de sol, malheureusement, puisque je vais attirer votre attention sur cet autre log stratigraphique qui a été réalisé. On en a fait plein partout, hein, dans les limites d'emprise, pour documenter toute la stratigraphie. Et on voit ici ces niveaux charbonneux, donc qui correspondent à tous les niveaux charbonneux qu'on a mis au jour un peu partout sur le site. Et ce niveau charbonneux est inséré entre deux couches d'argile grise, ce qu'on appelle hydromorphe, c'est-à-dire qui a subi une saturation en eau pendant plusieurs années, et qui, ces couches, marquent l'étendue, ou la hauteur, en gros c'est de la décantation des eaux du lac. Ce qui nous montre qu'en fait, les vestiges, ces vestiges, donc ces éléments de charbon et de céramique qui étaient pendus sur une certaine surface, n'étaient pas à l'air libre, mais étaient au fond du lac, donc insérés entre deux couches d'accumulation de sédiments au fond du lac. Donc pas de niveau de sol ici, malheureusement, mais sans doute des rejets domestiques vers le lac, d'une nature qu'on a du mal à interpréter, mais en tout cas qui ne sont pas vraiment des vestiges en place, associés à des bâtiments, etc. Pourtant, on n'est pas en dehors de toute occupation, loin de là, puisque nous avons, là encore pas très spectaculaire, on est dans du premier âge du fer, mais nous avons, donc en dehors du lac, plus à l'est, là où le lac n'est jamais allé, où on n'a pas ces vestiges de couches de sédimentation, de décantation des eaux du lac, on a mis au jour deux foyers, dont voici un exemple, qui montrent qu'il y a réellement une occupation du premier âge du fer qui se développe dans ce secteur. Mais la structure la plus intéressante pour cette période, c'est ceci. C'est un peu en périphérie, là c'est dans la zone R2, donc dans la grande zone de fouilles au sud, pas très loin des berges du lac et pas très loin des vestiges de foyers. Nous avons mis au jour ce qu'on peut appeler aussi un autre foyer, c'est une grande fosse qui fait 2,50 m de longueur, qui au moment du décapage et du nettoyage se caractérise par un comblement rempli de pierres. Voilà, pour l'instant on en est à ce niveau d'analyse là, sauf que ces pierres sont présentes d'importantes traces de rubéfaction, c'est-à-dire qu'elles sont passées sur le feu. Et en vidant la fosse, on tombe sur un fond de fosse, donc du creusement, caractérisé par la présence de charbon, souvent même des morceaux de branches complets carbonisés, et des parois de la fosse complètement rubéfiées, donc qui ont également subi la chaleur du feu. Voici ce que ça donne sur le relevé technique de terrain. Donc on a le creusement de la fosse comme ceci, avec les parois rubéfiées et la présence de charbon, le tout rempli de pierre. En fait, ce type de structure est assez connu. C'est ce qu'on appelait encore assez récemment un four polynésien, et ce qui aujourd'hui, on a des mots un peu plus neutres pour les appeler. On n'aime plus trop appeler les choses four polynésien, par exemple. Ça ne se fait plus, alors on appelle ça four à pierre chauffante ou four à pierre chauffée. C'est en fait une technique de préparation culinaire caractéristique de la Polynésie. Donc voici une image contemporaine de l'utilisation. C'est très simple, c'est une fosse au fond de laquelle on place du combustible, par-dessus lesquelles on place des pierres. On met le feu au combustible, les pierres emmagasinent de la chaleur pendant que le combustible se consume. Et une fois que les pierres ont bien accumulé de chaleur, on les retire, on place notamment de la viande, ou on peut placer d'autres choses, selon ses préférences. On recouvre avec les pierres chaudes, et tout ça cuit à l'étouffée pendant un certain temps, parfois plusieurs jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez connu pour le premier âge du fer, et là même dès le néolithique, et les recherches récentes sur ce type de four montrent qu'ils ont des caractéristiques assez particulières, notamment l'une d'entre elles, qui est la présence systématiquement en périphérie des habitats, jamais à l'intérieur des habitats. Ce ne sont pas des barbecues qu'on place au milieu du village. Je parle pour le premier âge du fer. Des barbecues qu'on place au milieu du village pour la consommation quotidienne, mais c'est toujours en périphérie. Ce qui conduit certains chercheurs à envisager l'hypothèse pour ce type d'aménagement qu'ils servent à la réalisation de repas communautaires. Donc de repas collectifs, en gros, disons le mot même pas trop fort, mais de banquets du premier âge du fer. C'est une des hypothèses, qui n'est pas prouvée évidemment, qui doit encore faire l'objet de recherches, mais c'est une des hypothèses, et on peut envisager cette question pour les reliades. Voilà pour le premier âge du fer, c'est tout. On va faire un saut dans le temps de deux siècles, trois siècles, pour se rendre au second âge du fer, où on a une activité archéologique, une activité domestique, qui reprend à partir du deuxième siècle avant notre ère. On a d'abord les vestiges d'un établissement rural. Alors les vestiges d'un établissement rural, je ne vais pas vous les détailler précisément, pour une simple et bonne raison, c'est que la plupart ont probablement, en tout cas c'est ma conviction de celui qui a fouillé sur le terrain et qui n'a pas réussi à voir les aménagements, notamment l'architecturaux de cette période, ces vestiges ont probablement été tronqués par tous les aménagements postérieure. Il y a eu beaucoup d'aménagements de terrassement et d'aménagements de grande ampleur qui ont probablement en grande partie détruit les vestiges de cette période, donc du second âge du fer. Mais il y a eu un rescapé, c'est lui, C'est un gros vase de stockage qui était écrasé en place, donc qui était probablement semi-enterré, et qui probablement bordait ou était intégré dans un bâtiment agricole, et qui servait au stockage de quoi, je ne peux pas vous le dire, mais probablement de céréales ou d'autres matières premières liées à l'exploitation agricole. C'est l'un des rares vestiges concrets qu'on puisse avoir de cette période, mais je vous demande de me faire confiance sur cette question-là. Il y a disséminé un peu partout tout un tas de petits indices qui nous montrent qu'il y a réellement une occupation de cette période. On appelle ça un bruit de fond, c'est-à-dire qu'en fouillant des structures de la période suivante, on trouve un peu de mobilier de la période antérieure, et puis quand ça devient systématique, on commence à se dire qu'il y avait quelque chose, et malgré nos insistances, nous n'avons pas réussi à, comment dire, à qualifier exactement cette occupation, mais elle est probablement présente. Mais vous verrez par la suite que ça fait sens avec les occupations postérieures. Ce qui a été de plus, par contre, de plus structuré pour cette période, c'est la présence d'une petite nécropole dont voici le plan. C'est une petite dizaine de sépultures à crémation, donc ce ne sont pas des inhumations, qui se développent, je vais vous remettre le plan, qui se développent juste ici. Pour vous resituer, le vase de stockage était situé ici et des indices d'occupation du second âge du fer étaient concentrés à cet endroit-là, ainsi qu'à cet endroit-là. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Voilà à quoi ressemblaient ces sépultures. Rien de bien spectaculaire encore une fois, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Ce sont, à vue d'œil comme ça, des amas charbonneux, qui pourraient ressembler à n'importe quel amas charbonneux, sauf que dans ces amas charbonneux étaient présents dès le nettoyage des eaux brûlées, qui montraient clairement que c'était des aménagements à caractère funéraire. Ces aménagements à caractère funéraire, donc ce sont des amas osseux, disposé en terre libre, donc le défunt était placé sur un bûcher auquel était mis le feu, et ensuite les os brûlés étaient récupérés, rarement de manière exhaustive, mais en tout cas on les récupérait un maximum pour les placer dans une tombe, accompagnée des offrandes qui elles aussi étaient placées sur le bûcher. Voilà, je ne vais pas vous commenter évidemment ce tableau non plus, mais ça fait partie des études qui sont réalisées. Pour chaque tombe, on a une étude archéozoologique qui permet de voir les animaux les morceaux de viande qui ont été placés sur le bûcher en accompagnement du défunt. Il y a une étude anthropologique qui permet de quantifier les os. Alors, je vous raconte pas la difficulté d'identifier des os humains sur des fragments comme ça, puisqu'évidemment tout est fragmentaire avec la crémation. Et puis, le mobilier accompagné, etc. Le mobilier, il est assez intéressant, même s'il est toujours assez rare. Je vous rappelle que c'est du mobilier très fragmentaire qui a été récupéré sur le bûcher, probablement encore fumant, et qui a été récupéré pour être placé dans la tombe avec le défunt. On a quelques céramiques, donc toujours fragmentaires car toujours brûlées. Notamment, on soulignera la présence de céramiques d'importation, notamment des céramiques campaniennes qui sont originaires d'Italie et qui, à l'époque, étaient une vaisselle plutôt luxueuse. Des fibules qui sont des broches, notamment ici, ce qu'on appelle une fibule à tête couvrante, qui est assez caractéristique, en tout cas c'est les cartes de répartition des fibules à tête couvrante qui nous le disent, caractéristique plutôt du bassin méditerranéen, en tout cas dans la Gaule, on les trouve quasiment uniquement au sud de la Gaule. Et puis ici, c'est probablement l'un des éléments mobiliers les plus intéressants. C'est très petit, c'est très fragmentaire et peu spectaculaire, mais c'est probablement, c'est même quasiment sûr, hein, après étude, un fragment de casque, fragment de casque qu'on appelle étrusco-italique à bouton sommital, à vos souhaits, mais qui, outre cette dénomination barbare, est un casque qui était utilisé pour ce type-là au IIe siècle par l'armée romaine, et ce que montre assez bien la carte de répartition qui est centrée sur l'Italie et tout le pourtour méditerranéen, en tout cas des parties déjà conquises par l'armée romaine, par Rome, au IIe siècle avant notre ère. Alors évidemment, la présence de ce casque pose un peu question. Ils sont rarissimes passé la Provence. Et donc, on peut évidemment évoquer toute une série d'hypothèses. Est-ce que c'est un guerrier gaulois qui a récupéré ce casque, qui a trouvé que ça faisait joli sur sa tête? Est-ce que, pourquoi pas, ça peut être un mercenaire gaulois ayant combattu dans l'armée romaine et récupéré une partie de l'équipement? On peut envisager tout un tas d'hypothèses, mais malheureusement, difficile à prouver en l'état. C'est vraiment les études globales de ce type d'objets qui permettent de le dire. Outre cet élément-là, On a plusieurs autres éléments intéressants qui permettent de documenter les pratiques funéraires en pays vélave et qui sont assez, assez intéressantes puisqu'ils se distinguent pas mal de ce qu'il fait par ailleurs. L'étude carpologique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'étude carpologique, c'est l'étude de tous les restes végétaux carbonisés. Donc la plupart du temps, ce sont les graines qui sont conservées une fois qu'elles sont carbonisées et qui permettent une étude de la consommation alimentaire. Mais ici, dans ces sépultures, toutes les sépultures quasiment étaient dotées de restes de carbonisés qui correspondent soit à des galettes, soit à de la chair de fruits carbonisée. Donc ça permet de documenter certaines offrandes alimentaires, galettes et fruits carbonisés, ce qui est assez rarement mis en évidence, donc c'est assez intéressant à souligner. L'étude archéozoologique, donc l'étude des restes d'os animaux, a permis de mettre en évidence non pas des offrandes alimentaires, très très rares, voire inexistantes dans ces sépultures, mais par contre, dans un des éléments à souligner, c'est une présence de griffes de loup qui pourrait correspondre à la présence d'une peau sur le bûcher funéraire. Et puis, autre chose un peu étonnante, c'est la présence de bourgeons qui ont été conservés dans ces sépultures et qui pourraient relever d'un rituel particulier dont j'aurais du mal à vous donner la nature ici, puisque, évidemment, c'est des choses qui touchent au rituel et qui sont toujours délicates à appréhender. Mais on a tout un faciès, si vous voulez, d'offrandes qui étaient placées sur le bûcher, qui dénotent des pratiques assez particulières et qui pourrait, en tout cas pour la griffe de loup, c'est assez avéré dans ce sens, le casque également, la fibule aussi et les campaniennes, une origine assez, une origine sociale assez élevée des défunts présents dans cette tombe. Je n'irai pas aller jusqu'à l'aristocratie, mais en tout cas, c'était pas les paysans du coin, probablement pas. Voilà pour la période gauloise. La période augusto-tibérienne, donc du début du 1er siècle de notre ère, a l'air de suivre directement la période gauloise. En tout cas, il n'y a pas d'interruption de l'occupation. Et ceci est d'autant plus flagrant qu'on reprend apparemment les mêmes aménagements pour les monumentaliser. J'évoquerai notamment ces deux bâtiments, bâtiment 7 et bâtiment 13, qui ont été mis au jour, notamment le bâtiment 7, à un endroit justement où on avait des indices de présence d'un établissement rural d'époque gauloise, mais qui a manifestement été détruit en partie, peut-être, par la mise en place de cet aménagement. Ces bâtiments, ils se développent de manière totalement différente que les bâtiments gaulois, donc c'est des solins en pierre, pierre sèche, hein, donc qui sont pas liés au mortier, et qui sont assez peu fondés. Hein. Comme vous voyez ici, on a une fondation qui fait moins d'un mètre de profondeur, et qui probablement était surélevée de parois en matériaux périssables. Probablement que l'intégralité de l'élévation n'était pas en pierre, mais qu'il y avait une bonne partie en matériaux périssables. Seul ce bâtiment-là avait probablement une couverture en tuiles. Celui-ci, aucune tuile n'a été mise au jour dans son emprise ou à proximité, ce qui semble démontrer qu'il avait une toiture en matériaux périssables, alors que lui suit probablement une couverture en tuiles. Ce qui n'en fait pas pour autant, à mon sens en tout cas, un bâtiment d'habitation. Il a un plan qui est assez particulier, qui est plus difficile à interpréter. Celui-là, c'est probablement une écurie ou une étable. Celui-là, plus délicat à interpréter, mais il faut sans doute y voir un bâtiment technique lié à l'exploitation agricole. D'autres bâtiments aux morphologies, aux techniques de construction un peu plus particulières ont été mis au jour, notamment celui-ci, qui, contrairement au précédent, était construit sur sablière. Sablière, c'est une simple poutre qui est posée au sol ou semi-enterrée et qui sert de support à des poteaux verticaux qui vont permettre de construire les parois. Ce bâtiment a eu beaucoup de chance, hein. Il a été en bonne partie arasé par les phénomènes de colluvion, d'arasement des vestiges par divers facteurs. Mais on voit très bien les sillons dans lesquels étaient placées les sablières, des trous de poteaux aux angles qui permettent de maintenir le tout, et surtout un sol aménagé à l'intérieur qui permet de voir que ce n'était pas non plus une simple hutte placée à un endroit X de l'établissement rural, mais vraiment un aménagement particulier avec un sol qui permettait d'assainir l'intérieur du bâtiment. Un autre bâtiment peut-être encore plus délicat à interpréter, le terme même de bâtiment, je vous l'accorde, peut être un peu délicat pour cet aménagement, mais on y voit tout de même une couronne de pierre qui correspond probablement à un reste de solin, à l'intérieur duquel un sol en poutre-solane était aménagé. Alors, la restitution en élévation, la restitution architecturale de ce bâtiment est encore plus délicate à réaliser. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la présence sur le sol de ce bâtiment et dans le comblement de deux fosses qui étaient accolées juste en périphérie du bâtiment, la présence d'indices liés à une activité métallurgique. Donc, il y avait les scories, qui sont les premiers éléments les plus faciles à identifier liés à une activité métallurgique, et également un fragment de creuset qui montre une activité liée au travail du bronze. Donc, bâtiment artisanal probablement, tout dépend de ce qu'on met sous le chapeau artisanal. On y verrait plutôt une activité liée à l'établissement agricole, donc une activité d'appoint, sans une vraie spécialisation artisanale avec un vrai débouché commercial, etc. Mais tout ceci s'intègre probablement, en tout cas ses contemporains, dans le reste de l'exploitation agricole, avec ce petit local servant à probablement réparer ou fabriquer des outils ou ce genre de choses. Voilà, alors je n'ai pas mis trop de plans de situation. Donc là, nous étions essentiellement ici. Hein. Donc on était sur l'extrémité orientale de l'emprise. Et nous allons maintenant nous concentrer sur ce secteur un peu particulier qui est situé à l'ouest de l'emprise, donc séparé de quelques dizaines de mètres des bâtiments précédents. Voici ce secteur qui pose encore question. Je m'excuse par avance de ne pas vous donner de réponse définitive quant à son interprétation, puisqu'il pose certains problèmes liés à la nature des vestiges qui ont été mis au jour. Premier de ces vestiges, c'est ceci. Cette espèce de grand rectangle qui fait une douzaine de mètres de long pour 7 mètres de large, si mes souvenirs sont bons. C'est un vaste aménagement qui est situé, la longueur est située dans la pente, si vous voulez, et qui est constitué de 3 murs, comme ceci. Aucun mur à l'arrière. Et l'intérieur de ces murs, donc les murs n'ont qu'un parement à l'extérieur, et l'intérieur est rempli d'un remblai de pierre. Donc, contrairement à l'interprétation qui a été donnée au moment du décapage de cet aménagement, ce n'est pas un bâtiment, en tout cas pas en l'état où on le voit là, mais ça a été interprété plutôt comme une sorte de podium ou d'esplanade qui permettait de rattraper le dénivelé naturel du terrain pour en faire un espace plat qui avançait vers la vallée. Cet aménagement présente voilà un peu des détails d'architecture avec ce bloc de chaînage qui était sur l'angle et qui était probablement aussi présent dans l'angle opposé, mais l'angle opposé a été cassé par un drain. Les deux assises sur lesquelles sont conservés cet aménagement, et puis probablement qu'il faut restituer plus d'assises que ça, évidemment. L'estimation en prenant les différences d'altitude entre l'arrière du bâtiment et l'avant nous montre que l'élévation se situait à au moins 1 mètre, 1,50 m. C'est un minimum, on peut monter plus haut si on le souhaite, mais rien ne nous permet de le prouver. Rien ne nous permet a priori de documenter les activités qui pouvaient avoir lieu sur ce podium, puisque toutes les parties supérieures, tous les sols qu'il pouvait y avoir sur le sommet du podium ont été arasés. En revanche, on peut documenter indirectement ces activités par la présence de niveaux de sol, ici, qui se développent à son pied et qui sont, il y a en tout cas des chances pour que ce soit comme ça, qui peuvent être liés aux activités qui ont lieu sur la partie supérieure. Ces niveaux de sol ont livré une quantité de mobilier assez intéressante, qui est datée du début du 1er siècle de notre ère, et dans lesquels, c'est là que je vous parlais avec ce mot grossier de faciès qu'on utilise très régulièrement, et qui signifie qu'on essaie de travailler avec l'ensemble des objets, notamment dans une catégorie particulière, ici la céramique, on essaie d'évaluer l'ensemble du faciès de mobilier pour voir s'il est plutôt lié à une activité agricole, plutôt lié à une activité artisanale, plutôt dans le cadre d'un groupe social élevé ou d'un groupe de niveau social faible, etc. Ici, on a un nombre assez important, en termes de proportion en tout cas, un nombre assez important de sigillés, qui sont des sigillés c'est des céramiques particulières de l'époque romaine, qui sont assez facilement identifiables, mais qui ont plusieurs zones de production. Ici, ce sont des sigillés, des sigillés qui proviennent d'Italie, donc probablement de Pise ou d'Arezzo, comme la plupart des sigillés italiques qui arrivent jusqu'en Gaule. Et ici, ce sont les premières manifestations des imitations de sigillés qui sont réalisées dans le sud de la Gaule, notamment à la Gros-Fezenque, c'est un site assez important qui se situe à Millau. Mais ces sigillés nous montrent que on n'est pas dans un faciès céramique, en tout cas d'établissement rural, mais bien dans quelque chose d'assez particulier qui peut être lié aux activités qui ont eu lieu sur le sommet du podium. Je reste dans ces propos évasifs pour l'instant. D'autres éléments de mobilier assez intéressants. Ici, du verre rubané qui est importé d'Égypte ou de Moyen-Orient. Et ici, un fragment, alors ça c'est des choses qui sont présentes dans la vitrine, hein, que vous pourrez aller voir après. C'est un fragment de ce qu'on appelle de pigment qu'on appelle le bleu égyptien, qui est importé, comme son nom l'indique, d'Égypte, mais comme son nom ne l'indique pas, peut être aussi importé d'Orient, et qui est un pigment qui est utilisé dans la peinture murale, notamment à l'époque antique, et qui relève d'un certain luxe, puisque ce type de pigment est assez cher, importé, et n'est utilisé que dans les maisons relativement luxueuses. Donc, vous l'aurez compris, ce type de mobilier, le faciès céramique et ces mobiliers d'importation, aussi fugaces soient-ils, puisque c'est quand même quelques éléments assez épars, posent quand même la question du statut social des gens qui occupaient ce secteur. Et je vous renvoie à ce que j'ai dit juste avant sur le statut social des gens qui étaient enterrés dans la nécropole gauloise, qui pourraient relever du même ordre, si vous voulez. Mais ça dénote beaucoup avec l'établissement rural, les bâtiments agricoles qui se situaient juste à côté. Autre aménagement très particulier mis au jour juste à côté de ce secteur, c'est ceci. Ça, c'est l'état à la suite du décapage et d'un premier nettoyage. On voit ces quatre murs formant ce qu'on a cru aussi au départ être un bâtiment. Mais j'attire votre attention sur la couleur du sédiment qui se situe à l'intérieur de ces murs, qui semble se distinguer assez nettement de ce qu'on trouve à l'extérieur. Ça nous a mis évidemment la puce à l'oreille, et en donnant quelques coups de godet de pelle mécanique à l'intérieur, nous avons dégagé ceci, c'est-à-dire un vaste bassin qui fait une quinzaine de mètres de côté, pour un mètre cinquante de profondeur selon les endroits, et donc ça représente un certain volume d'eau, puisque c'est, je ne vous le cache pas, c'est probablement lié à l'eau, hein, mais ça on va le voir tout de suite. Mais ce grand bassin se développe ici, donc en périphérie, juste à côté de notre podium. Ça, c'est le bassin après la vidange. Voici quelques détails sur les modes architecturaux. C'est toujours de la pierre sèche, hein. C'est du basalte qui a été utilisé pour monter les parements, les murs de soutènement de ce bassin, creusé directement dans des niveaux de colluvion, puis dans le niveau du terrain naturel argileux. Voilà une image de la mise en œuvre. Donc, c'est la bonne mise en œuvre, mais quand même assez rudimentaire au niveau des techniques. Et puis, tout le fond du bassin était tapissé de ce radier de pierre que l'on trouvait sur toute la superficie du bassin. Qu'est-ce qui nous fait penser que c'est un aménagement lié à l'eau? Alors, il y a plusieurs indices qui sont assez clairs, notamment sa stratigraphie. Ça, c'est la stratigraphie interne du bassin, toutes les couches qu'on a pu mettre en évidence à l'intérieur. Vous avez ici le fond du bassin. Premier niveau, c'est le radier de pierre dont je vous ai parlé il y a quelques secondes et qui tapisse tout le fond du bassin. Et surtout, ce qui va être intéressant ici, c'est toute cette couche-là, qui présente également un caractère hydromorphe et qui montre que de l'eau a décanté dans cet aménagement et que le niveau de l'eau permanent devait se situer à peu près ici, voire plus haut évidemment, puisque c'est de l'eau de décantation, donc qui est un niveau, le sédiment un niveau plus bas que l'eau elle-même. Donc il y a clairement un lien lié à l'eau, et ce lien est encore plus évident avec la mise au jour de ces deux objets. Le premier, c'est une grosse pierre qui a été taillée par un demi-cylindre permettant le passage d'une canalisation, comme ceci. Et ici, chose un peu plus, encore un peu plus rare, c'est un filtre. Donc ici, c'est la partie filtre qui est en plomb, ceinturée par une frette en fer qui devait être accordée à une canalisation en bois que nous n'avons évidemment pas retrouvée, puisque le bois se conserve très rarement dans ce type dans les sites archéologiques. Ce filtre, vous pourrez le voir en vrai, et oui, dans la vitrine située juste ici. Parlons encore un peu de faciès mobilier, je m'excuse d'insister là-dessus et sur la céramique, mais c'est très important puisque là encore, le comblement de ce bassin a permis la mise au jour d'un important mobilier céramique et qui est caractérisé par la présence de beaucoup, beaucoup de sigillés, notamment des formes complètes, ce qui est assez rare et qui mérite d'être souligné pour ce type de contexte, de remblai en fait, hein, puisque c'est vraiment des choses qui ont été jetées dans le bassin. Certaines de ces sigillés sont également présentes dans la vitrine et qui, là encore, posent la question du statut social, des activités qui ont pu avoir lieu sur ce secteur. Voilà une petite image, mais elle ne sert à rien depuis que j'ai mis exactement les mêmes formes dans la vitrine, donc vous les verrez en vrai. Et je vous disais il y a quelques secondes que le bois archéologique se conservait généralement pas. Eh ben, c'est pas le cas, puisqu'on a un petit peu de bois qui a été conservé. En tout cas, c'est la surprise assez inquiétante qu'on a eue lors de notre dernière semaine de fouille en vidant ce bassin en pierre. Donc, vous voyez ici très nettement un angle du bassin en pierre. Et dans cet angle, des planches en bois qui tapissaient le fond du bassin. Donc au début, on a vite pensé qu'il s'agissait d'un aménagement particulier de fond de bassin, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ces planches passaient en dessous du mur. Donc on avait manifestement un état antérieur à notre bassin monumental en pierre. Et en décapant tout le reste, voici sur quoi on est tombé. En fait, c'est un premier bassin, un premier état du bassin, avec des parois en pierre à l'image du premier, sauf que contrairement au bassin en pierre avec un radier de pierre au fond, ici c'est tout un plancher en bois qui a été mis au jour au fond de ce bassin. Donc ici il est conservé sur une ou deux assises de pierre. Il faut s'imaginer qu'au départ il était élevé à peu près, on va dire, à la même hauteur que le premier bassin que je vous ai montré. C'est la construction de ce grand bassin en pierre qui a complètement arasé ce premier état et qui l'a dissimulé sous des couches de pierre du radier du deuxième état. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est assez logique. J'attire votre attention également sur cette trace noire qui serpente juste au-dessus du bassin et qui en fait conduit vers ici, vers ce système-là, et qui est probablement un système d'évacuation de l'eau du bassin. Donc à la base du bassin, un système d'évacuation, probablement lui aussi garni d'une canalisation en bois qui, elle, pour le coup, n'a pas été conservée. Voilà, pour résumer très grossièrement, une vue générale de cet aménagement assez spectaculaire, ça change des tombes gauloises évidemment. Nous avons ici donc le premier état du bassin, un premier bassin creusé directement dans les colluvions et dans le terrain naturel, et dont la datation, c'est en tout cas ma conviction, doit remonter à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ ou au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Je ne vais pas vous faire tout l'argumentaire scientifique, mais en tout cas, ce bassin est indirectement lié à des aménagements qui datent de cette période et le comblement du second, dont voici l'emprise, date du début du 1er siècle après Jésus-Christ. On est sous le règne de Tibère, grosso modo, donc on est dans la première moitié du 1er siècle. Donc on a un temps très court. Et je vous rappelle les autres aménagements qui montrent la succession entre des vestiges de l'époque gauloise et augusto-tibérienne, selon une solution de continuité assez nette. L'autre élément évidemment crucial dans l'interprétation de ce secteur, j'aurais dû vous mettre un peu plus de plan de situation, du coup je vais faire quelques allers-retours épileptiques. Voilà. Donc le bassin est ici, le podium est ici, et je vais vous parler de ce secteur ici, qu'on a appelé d'où nom d'ensemble 10. Et l'ensemble 10 est du coup un secteur à caractère funéraire également, sur lequel on voit tout un épandage de pierres, de céramique, et d'ossements brûlés et de charbon, qui s'étendent sur une superficie relativement importante, et au sein desquels on a mis au jour, pour le coup, des véritables urnes funéraires. C'est ce qui fait la différence entre la nécropole gauloise qu'on a mise au jour un peu plus au nord et qui était uniquement des résidus en pleine terre. Ici, les résidus de la crémation sont placés dans des urnes qui elles-mêmes sont enterrées. Donc voici un exemple à différents états de la fouille. Au début de la fouille, une fois le couvercle retiré, et pendant la fouille en laboratoire où on voit apparaître les ossements humains qui se trouvent à l'intérieur de cette sépulture. Une dizaine de sépultures également qui ont été mises au jour. Je vous remets ce petit tableau, mais je ne vais pas le commenter outre mesure, avec toujours un mobilier, alors moins évidemment à caractère aristocratique, on va dire, que pour les tombes gauloises, mais quand même quelque chose qui n'est pas à négliger. Voilà pour le domaine funéraire, et je vais conclure sur ce secteur-là en vous commentant une coupe stratigraphique. C'est la grande coupe stratigraphique que vous voyez ici, donc c'est ce grand axe qui part de l'ensemble funéraire ici jusqu'au début du bassin et qui permet de comprendre un peu mieux l'évolution de ce secteur sur les deux siècles dont je vous parle, premier siècle avant notre ère, premier siècle après notre ère. Alors je vous place tout de suite des points de repère. Ici vous voyez ce creusement gris, on le retrouve ici, et la rupture ici, on la retrouve là. C'est juste, c'est une coupe qui est découpée, sinon ça ne logerait pas dans l'écran. Nous avons en jaune le terrain naturel, qui est de l'argile qui se dépose au fond. Nous avons en brun là, quelques couches de colluvions, mais je ne vais pas m'arrêter dessus. Mais ce qui est important à souligner, c'est que le premier aménagement stratigraphiquement qui est mis au jour, qui est mis en place ici, c'est ceci. C'est une terrasse à l'arrière duquel ont été remblayés des matériaux, d'importants matériaux. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'à l'intérieur de ces couches ont été mises au jour du mobilier gaulois, ce qui nous montre que ce secteur, dès la période gauloise, était déjà occupé, donc dès le 2e, 1er siècle avant notre ère. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'a été mis en place, ici en beige, le podium. Donc on voit ici une pierre du parement et une pierre du parement ici, et tout le remblai à l'intérieur, et les niveaux de sol en brun de chaque côté, ici et là. Donc ça, c'est un deuxième état, et ces niveaux de sol datent très bien du début du 1er siècle de notre ère. Donc on a assez clairement une succession d'aménagements entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après. Ce qui corrobore ce que j'ai dit pour l'établissement Ural, avec la succession des deux aménagements, et surtout la troncature des vestiges gaulois par les gros aménagements topographiques d'époque romaine. Non seulement il y a eu ces aménagements de podium, mais aussi des aménagements de terrasses, dont voici une des manifestations pour l'époque romaine, la création d'une terrasse, l'agrandissement de la terrasse gauloise en fait. Ici vous avez le creusement du bassin, mais je ne vais pas commenter plus outre mesure. Alors pour ce secteur, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment cette période entre le 2e siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère qui sont les plus structurés pour ce site et donc qui méritent le plus d'attention. Je vous propose quelques éléments d'interprétation. D'une part, nous avons, comme je vous le disais, des aménagements bassins, terrasses, qui sont mis en place, et évidemment structures funéraires, qui sont mis en place dès la fin de la période gauloise et associées à la sépulture, je l'avais écrit. L'ensemble est monumentalisé probablement à l'époque augustéenne, donc probablement au tout début du 1er siècle de notre ère. Le podium, on peut l'associer à un lieu dédié aux cérémonies funéraires, même si évidemment nous n'avons aucune preuve là-dessus, puisque tous les niveaux sont râpés au-dessus, donc on ne peut pas le dire vraiment directement. Et le bassin, qui reste le grand mystère, est-il lié à un captage de source? En tout cas, il était constamment en eau, en tout cas ils étaient, hein, les deux, probablement constamment en eau, même s'il y avait des systèmes d'évacuation à la base. Donc il y a quelque chose qui est lié probablement au captage d'une source. Alors évidemment, après, on peut partir sur des tas d'hypothèses différentes, mais en tout cas, il y a ce lien entre un captage de source, l'emplacement d'une nécropole et la mise en place d'une structure monumentale, probablement liée aux aménagements funéraires qui se mettent en place donc entre ce 1er siècle avant et ce 1er siècle après Jésus-Christ. Ça pose évidemment la question de la différence de statut entre ce secteur-là, très particulier, et quelques mètres plus à l'est, les bâtiments à vocation agricole, qui présentent pour le coup un faciès céramique très conforme à un établissement agricole, avec du vase de stockage, de la céramique culinaire, etc. Et ça pose la question de la coexistence entre les deux, qui sont, d'après les études de mobilier, strictement contemporains. Je vais passer à la période flavienne et un peu postérieure, c'est-à-dire la fin du 1er siècle de notre ère et le début du 2e siècle. Il y a probablement hiatus, en tout cas la période de la seconde moitié ou le milieu du 1er siècle n'est pas documentée, donc on a une disparition probablement d'établissements ruraux. Et puis se mettent en place de nouveaux types d'aménagements, des chemins, qui pour plusieurs segments de chemins ont été documentés sur l'ensemble de l'emprise, et ceux qu'on a pu dater soit par les éléments de mobilier, soit par la stratigraphie, sont datés de cette période-là, 1er, 2e siècle. Et puis, ce chemin associé à des structures caractère funéraire, notamment un petit mausolée. Un mausolée, vous allez voir, qui n'est pas l'image qu'on se fait du mausolée, mais qui est un mausolée en matériaux périssables. Bref. Voici à quoi ressemble un des chemins les mieux conservés, donc c'est quelque chose d'assez étroit, hein, ça fait même pas 2 mètres de large, uniquement aménagé en pierre sèche, sans fossé bordier, sans aménagement particulier, donc c'est un petit chemin rural sans prétention, mais qui a eu la chance d'être conservé jusqu'ici par petits segments. Et voici l'ensemble des éléments de chemin qu'on a pu documenter, qui semblent former 2 réseaux, mais c'est assez difficile puisqu'on a une énorme lacune à cet endroit-là qui a été beaucoup perturbée par les terrasses postérieures. donc l'endroit où ces chemins n'ont pas été documentés, mais j'attire votre attention sur ce petit développement du chemin par ici, et la présence ici de la structure funéraire, juste à une intersection en bordure de chemin, donc dans un schéma assez classique de structure funéraire, surtout si elles sont... S'il y a eu une attention particulière portée à l'apparence de cet aménagement funéraire, c'est assez classique de le placer en bordure de chemin. Voici le relevé de fouilles de terrain de cet aménagement funéraire. Il se présente en premier lieu comme un vaste épandage de céramique. Là encore des céramiques sigillées, mais des céramiques sigillées qui trouvent une autre origine. Il y en a encore des sigillés qui proviennent de Mio, donc de la Grosfezanque, et une seconde moitié qui vient de Lezoux. C'est la période de développement des ateliers de poterie de Lezoux qui commencent à exporter leur céramique assez loin. On y trouve donc beaucoup de sigillés, pour la plupart brûlés, comme le montre cette image où on voit que ces céramiques sont passées également sur le bûcher et qui ont subi l'action du feu à des degrés divers, hein, de très très brûlés à très peu brûlés, mais en tout cas quasiment toutes sont passées sur le bûcher, et qui présentent un faciès très très homogène avec vraiment un service très régulier de céramique avec ce type de petite tasse dont on a trouvé 10 ou 20 exemplaires, et puis ce type de petite coupe dont on a également trouvé 10 ou 20 exemplaires. Ce n'était que ces formes quasiment qui étaient représentées et qui montrent bien une volonté d'homogénéiser le vaisselier qu'on associe à la cérémonie funéraire. Autre type d'objets qui ont été mis au jour, un peu plus anecdotiques, mais ça vaut le coup de les évoquer. Donc plusieurs lampes à huile, une dizaine de lampes à huile, dont vous pouvez voir également certains exemplaires dans la vitrine, qui ont été également passés sur le bûcher. Des éléments de tabletterie qui se réfèrent à différents types d'objets qui sont également passés sur le bûcher. J'attire votre attention sur celui-ci qui a pu être interprété comme un pied de coffret. Donc qui montre la présence d'un objet particulier en bois, donc qui a totalement brûlé, mais dont cet objet pourrait constituer le dernier vestige. Ici, ce sont des dessins techniques, alors c'est peut-être pas très lisible, mais ce sont des clous de chaussures, donc qui servaient à fixer les semelles sur les sandales romaines. Alors ça, c'est des types de clous de chaussures qui sont habituellement associés à des militaires, mais c'est un peu difficile dans cette période, je vais pas rentrer dans les détails. Et puis énormément de restes carbonisés dont vous pouvez voir un curveur complet, enfin un tupperware complet dans la vitrine. Ce sont des graines carbonisées qui faisaient évidemment partie des offrandes placées sur le bûcher pour accompagner le défunt dans l'au-delà. Sous ce niveau d'épandage de mobilier, donc de rejet de mobilier qui était associé à la cérémonie funéraire puisque l'essentiel des objets étaient brûlés, voici ce qui a été mis au jour. L'urne, donc quelque chose de très classique, dans sa petite fosse, l'urne funéraire à l'intérieur duquel étaient placés les ossements du défunt, donc de manière relativement triée. On a fait attention à prendre les ossements du défunt pour les placer dans l'huile, dans l'urne, et les autres objets qui ont été placés par au-dessus. Et surtout, j'attire votre attention sur ces quatre petites concentrations de pierres qui ne sont pas là pour rien, puisque ce sont probablement des trous de poteau. Vous voyez ici, c'est du calage en fait de trous de poteau, ici l'espace pour placer le poteau, et qui forment un espace carré très régulier, et qui en fait constituait un édicule qui surmontait l'ensemble. Alors, c'est toujours pareil, quand les niveaux de sol sont pas ou peu conservés, c'est assez difficile de proposer une restitution architecturale, enfin, même quand les niveaux de sol sont conservés, puisque si on peut considérer qu'ils l'étaient. Mais c'est difficile de proposer une restitution architecturale, notamment, y avait-il des parois? Y avait-il une toiture? Y avait-il, jusqu'à quelle hauteur cela s'élevait-il? C'est assez difficile de proposer. Alors, j'ai hésité beaucoup à vous faire une petite restitution, un petit dessin, avec comme une petite maison au-dessus de l'urne, mais c'est toujours un peu délicat, puisqu'on peut envisager toutes les hypothèses. Y a des cas, notamment, en Scandinavie, où c'est pour la période protohistorique, où ce type d'édicule existe, mais ce sont simplement quatre poteaux avec, des barres au-dessus qui permettent de délimiter l'espace funéraire, mais pas du tout de parois, pas du tout de toiture, rien du tout. Donc je me suis abstenu de vous reconstituer, mais il faut juste souligner le caractère assez étonnant de cet aménagement, très rare, hein, on en trouve assez peu, et du coup qui marque sans doute peut-être une particularité des pratiques funéraires chez les Vélabres. Ça, je vous l'ai déjà montré, un petit détail de l'urne, hein, qui voilà. Voilà pour la période du 1er siècle, et ensuite on va passer assez rapidement sur toute la période qui va de la fin ou du milieu de l'Antiquité jusqu'à nos jours, puisque cette période marque la fin totale de l'occupation, donc on n'a plus vraiment d'aménagement type funéraire ou type habitat ou agricole, mais uniquement des aménagements topographiques et des aménagements voués à valoriser ce terroir, c'est-à-dire essentiellement des terrasses et des drains. En tout, 148 drains ont été documentés. C'est le nombre, le type de structure le plus important qu'on ait mis au jour. Et ces drains, voici un petit exemple de l'intersection entre deux. Mais ces drains, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se superposaient sur plusieurs niveaux. Donc, soit que certains drains venaient recouper d'autres. On voit ici clairement que celui-là vient recouper celui-là. Ici, on voit clairement deux drains qui sont séparés par une couche de collusion qui montre bien qu'ils n'ont pas fonctionné à la même période. Et donc, ces différents types de relations stratigraphiques qu'on a pu documenter sur les drains, sur l'ensemble du site, nous a permis de distinguer, ça c'est ce que vous voyez ici, au minimum 5 phases de travail, de drainage du terrain. Ces 5 phases séparées par des couches plus importantes de collusion qui marquent plus ou moins une interruption des activités sur ce secteur. Alors évidemment, la datation d'un drain, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe, puisque par définition, on jette rarement une pièce dans un drain ou une céramique qui va nous permettre de le dater, donc c'est très délicat. Les arguments qu'on a, c'est la stratigraphie qui nous permet de voir que le premier niveau a été mis en place dès l'Antiquité. Donc on sait que dès l'Antiquité, il y a eu une volonté de valoriser ce terroir en le drainant, ces terrains très argileux et probablement difficile à exploiter. Pour les plus récents, on a un tesson de céramique du XVIIIe siècle qui est sorti d'un des niveaux les plus, un des niveaux supérieurs de drain et qui permet de voir toute l'ampleur, c'est-à-dire au moins 1500 ans de tentatives pour valoriser ce terroir. Ça peut être considéré presque comme de l'acharnement à ce niveau-là, avec ces 5 niveaux qui s'accumulent et qui drainent. Alors là, c'est une toute petite partie de l'emprise, mais il faut savoir qu'il y en avait partout. Donc, en accord avec le SRA, avec Elise Nectou, nous n'avons pas documenté l'intégralité des drains sur tout le secteur. On a choisi de se limiter à cette bande qui était celle avec la stratigraphie la plus importante, qui permet de documenter ces 5 niveaux. Ces drains étaient associés à la mise en place de terrasses. Donc, je vous ai déjà dit que pour la période gauloise, on a commencé à mettre en place des terrasses. Ça a continué au début du 1er siècle de notre ère. Et en fait, ça a continué pendant les siècles qui se sont succédés après. Et sur l'image que vous voyez à droite, c'est un extrait du cadastre napoléonien sur lequel j'ai transposé les emprises de nos deux fouilles. Cadastre napoléonien qui reprend en grande partie les aménagements antérieurs et dont on a pu documenter des terrasses qui, en fait, ces terrasses étaient présentes quand on est arrivé sur le terrain. Donc, c'est des terrasses qui remontent au minimum au XIXe siècle et dont on a pu documenter certains vestiges comme pour celle-ci. Voilà en gros pour pour la période qui va jusqu'au XVIIIe siècle au moins. Alors le 19e et 20e, je peux pas vous dire, on n'a pas trouvé grand chose, mais c'était un terrain qui était sans doute encore drainé et terrassé. Mais je vous propose ici un rapide bilan chronologique de ces résultats. Avec au premier âge du fer, vous voyez une emprise approximative du marais ou du lac, probablement du lac, sur lequel sont, au bord duquel sont installés des foyers, des fosses et surtout le four à pierre chauffante, donc le four polynésien. Y avait-il des repas communautaires? Et surtout, la question la plus importante, c'est le cœur de l'occupation, où est-il situé? Il se situait probablement hors emprise, mais on a du mal à estimer à quelle distance, évidemment. Au second âge du fer, c'est documenté stratigraphiquement, il y a un retrait de la zone humide qui se rétracte et qui permet l'installation ici de la petite nécropole qui est associée à une zone d'occupation très mal documentée, très difficile à documenter ici, mais il y a un bruit de fond qui marque la présence de cette occupation, mais surtout la mise en place des premiers aménagements topographiques type terrasse avec probablement le premier bassin qui est mis en place à cette période plutôt au 1er siècle, on va dire à la fin du 1er siècle, mais en tout cas ça, c'est probablement antérieur au changement d'ère. Période augusto-tibérienne, on a le développement de la terrasse avec l'aménagement du podium et l'agrandissement du bassin et la construction en dur des établissements liés à l'établissement agricole. Et c'est là qu'on peut se poser la question de la nature de ces vestiges. Et c'est vrai que l'une des hypothèses qui peut se présenter, c'est qu'on se situe en périphérie d'un établissement rural plus important, type villa, établissement rural aristocratique, puisque c'est le contraste entre ces établissements agricoles vraiment des bâtiments techniques hein, qui se développent ici, et puis ces aménagements beaucoup plus importants et qui ont relevé certaines quantités de mobilier relativement prestigieux qui permettent de se poser la question si en périphérie, pas très loin de ce secteur, on n'a pas un aménagement de type villa auquel seraient associées ces structures-là. Alors pour le secteur du Puy-en-Velay, on a énormément de toponymes en hack. Comme vous le savez, vous savez qu'il y a beaucoup de toponymes en hack, mais ces toponymes en hack sont issus du latin yacum, mais qui est associé à la notion de domaine agricole. Et certains chercheurs, en tout cas, considèrent que ça peut être associé à des domaines liés à des villas. Alors il y en a des tas, donc on s'est un peu amusé à chercher, savoir où pourrait être notre très hypothétique villa. Il y a juste derrière, donc juste au sud, il y a le plateau de Toyac, qui pourrait être un bon candidat. Alors sur l'emprise du diagnostic, il n'y a rien eu de vestige de ce type, mais on peut toujours se poser la question. Il y a évidemment d'autres candidats, mais il faut sérieusement se poser la question de savoir si on n'est pas juste en périphérie d'un établissement plus important. Pour la période flavienne, alors là, clairement, on a une rétractation de l'occupation. On n'a plus que des chemins probablement agricoles associés à ce petit mausolée et qui marque probablement la mise en culture ou l'abandon total de ce secteur. Et puis, on termine par la fin de l'Antiquité jusqu'à au moins au 18e et peut-être jusqu'à nos jours avec cette mise en place de tous ces aménagements de petites terrasses et drains qui permettent de valoriser ce terroir. Je terminerai en évoquant simplement une des notions intéressantes sur ce site, c'est la pérennité des aménagements, en tout cas la trace que laisse dans le paysage des aménagements qui peuvent remonter à une période assez ancienne. Ici, les lignes rouges qui sont présentées sur ce plan, c'est les limites actuelles du cadastre. Et ces limites actuelles, en fait, sur bien des points, ont trouvé certaines correspondances avec les vestiges les plus anciens qu'on a pu mettre au jour. Ici, vous avez cette limite parcellaire-là qui correspond à l'axe du chemin du antique qui a été mis au jour ici. Ici, avec une certaine distance, on a également un axe qui corrobore. Ici, il y a un chemin également qui passe à cet endroit-là et qui correspond à cette limite parcellaire. Et ici, ce bâtiment qui se colle parfaitement à l'angle d'une limite parcellaire. Alors attention, la plupart de ces limites parcellaires sont mises en place, on va dire, de manière assez naturelle dans le sens de la pente. Donc c'est assez logique qu'on ait des correspondances d'orientation. Mais j'attire juste votre attention sur ces secteurs, puisqu'on a une anomalie dans la disposition des parcelles de secteur, et qui en fait, cette anomalie correspond à la mise en place de la terrasse augustéenne, qui elle-même correspond à la mise en place, est un agrandissement de la terrasse gauloise, et qui permet de voir qu'aujourd'hui encore, on a des traces, ne serait-ce que dans le parcellaire, de vestiges qui ont pu être mises en place dès le IIe siècle avant notre ère. Et c'est aussi l'un des intérêts de ce type de site, c'est d'arriver à voir l'empreinte qu'ont eu les différentes occupations du néolithique, en tout cas de l'âge du fer jusqu'à nos jours, l'empreinte qu'ont pu avoir ces occupations sur les paysages actuels. Et je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaiterez.